Alors maintenant, oui, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce temps? Ah ben par exemple, écouter lire. Ah oui, bonne idée! Écouter lire l'émission de Radio Alto, c'est maintenant.
Bonjour, goûtons aujourd'hui au plaisir de lire des écrivains qui parlent de leur rapport à la lecture et aux livres. Un extrait de « Les mots » de Jean-Paul Sartre. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait partout. Défense était faite de les épousseter, sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais, ces pierres levées, droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque ou noblement espacées en allées de menhir. Je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Elles se ressemblaient toutes. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir, et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière. Mais je ne savais trop qu'en faire et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Mon grand-père, si maladroit d'habitude que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ses objets culturels avec une dextérité d'officiant. Je l'ai vu mille fois se lever d'un air absent, faire le tour de sa table, traverser la pièce en deux enjambées, prendre un volume sans hésiter, sans se donner le temps de choisir, le feuilleter en regardant son fauteuil par un mouvement combiné du pouce et de l'index, puis, à peine assis, l'ouvrir d'un coup sec à la bonne page, en le faisant craquer comme un soulier. Quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres et je découvrais la nudité de leurs organes intérieurs, des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires, qui buvaient l'encre et sentaient le champignon. Dans la chambre de ma grand-mère, les livres étaient couchés. Elle les empruntait à un cabinet de lecture, et je n'en ai jamais vu plus de deux à la fois. Ces colifichets me faisaient penser à des confiseries du Nouvel An, parce que leurs feuillets souples et miroitants semblaient découpés dans du papier glacé. Vif, blanc, presque neuf, il servait de prétexte à des mystères légers. Chaque vendredi, ma grand-mère s'habillait pour sortir et disait « Je vais les rendre !» Au retour, après avoir ôté son chapeau noir et sa voilette, elle les tirait de son manchon et je me demandais mystifiée « Sont-ce les mêmes ?» Elle les couvrait soigneusement, puis, après avoir choisi l'un d'eux, s'installait près de la fenêtre dans sa bergère à oreillettes, chaussait ses besicles, soupirait de bonheur et de lassitude, baissait les paupières avec un fin sourire voluptueux que j'ai retrouvé depuis sur les lèvres de la Joconde. Ma mère se taisait, m'invitait à me taire. Je pensais à la messe, à la mort, au sommeil. Je m'emplissais d'un silence sacré. De temps en temps, Louise avait un petit rire. Elle appelait sa fille, pointait du doigt sur une ligne, et les deux femmes échangeaient un regard complice. Pourtant, je n'aimais pas ces brochures trop distinguées. C'étaient des intruses, et mon grand-père ne cachait pas qu'elles faisaient l'objet d'un culte mineur, exclusivement féminin. Le dimanche, il entrait par désœuvrement dans la chambre de sa femme et se plantait devant elle sans rien trouver à lui dire. Tout le monde le regardait, il tambourinait contre la vitre, puis, à bout d'invention, se retournait vers Louise et lui ôtait des mains son roman. Charles, s'écriait-elle furieuse, tu vas me perdre ma page. Déjà, les sourcils hauts, il lisait. Brusquement, son index frappait la brochure. Comprends pas. Mais comment veux-tu comprendre, disait ma grand-mère. Tu lis par dedans. Il finissait par jeter le livre sur la table et s'en allait en haussant les épaules. Il avait sûrement raison puisqu'il était du métier. Je le savais. Il m'avait montré sur un rayon de la bibliothèque de forts volumes cartonnés et recouverts de toiles brunes. Ceux-là, petit, c'est le grand-père qui les a faits. Quelle fierté ! J'étais le petit-fils d'un artisan spécialisé dans la fabrication des objets saints, aussi respectable qu'un facteur d'orgue, qu'un tailleur pour ecclésiastique. Je le vis à l'œuvre. Chaque année, on rééditait le Deutsches Lesebuch. Aux vacances, toute la famille attendait les épreuves impatiemment. Charles ne supportait pas l'inaction. Il se fâchait pour passer le temps. Le facteur apportait enfin de gros paquets mous. On coupait les ficelles avec des ciseaux. Mon grand-père dépliait les placards, les étalait sur la table de la salle à manger et les sabrait de traits rouges. À chaque faute d'impression, il jurait le nom de Dieu entre ses dents, mais il ne criait plus, sauf quand la bonne prétendait mettre le couvert. Tout le monde était content. Debout sur une chaise, je contemplais dans l'extase ces lignes noires striées de sang. Charles Schweitzer m'apprit qu'il avait un ennemi mortel, son éditeur. Mon grand-père n'avait jamais su compter. Prodigue par insouciance, généreux par ostentation, il finit par tomber, beaucoup plus tard, dans cette maladie des octogénaires, l'avarice, effet de l'impotence et de la peur de mourir. À cette époque, elle ne s'annonçait que par une étrange méfiance. Quand il recevait par mandat le montant de ses droits d'auteur, il levait les bras au ciel en criant qu'on lui coupait la gorge. Ou bien il entrait chez ma grand-mère et déclarait sombrement « Mon éditeur me vole, comme dans un bois ». Je découvris, stupéfait, l'exploitation de l'homme par l'homme. Sans cette abomination, heureusement circonscrite, le monde eût été bien fait pourtant. Les patrons donnaient selon leurs capacités, aux ouvriers selon leurs mérites. Pourquoi fallait-il que les éditeurs, ces vampires, le déparassent en buvant le sang de mon pauvre grand-père? Mon respect s'accrut pour ce saint homme dont le dévouement ne trouvait pas de récompense. Je fus préparé de bonne heure à traiter le professorat comme un sacerdoce et la littérature comme une passion. Extrait de Septentrion de Louis Calaferte. Les livres me donnaient confiance, sentiment assez indéfinissable. Ils représentaient une force sûre, un secours permanent. Toujours réceptif, un livre. À la première lecture, on a laissé une marque à telle ou telle page, le coin plié, c'est le passage qui répondait à une préoccupation, à un doute. Le dialogue est ininterrompu, d'autant plus vaste qu'on y ajoute tout ce qu'on veut. L'auteur n'a fait que poser les jalons indispensables, à vous de faire la tournée d'inspection. La frénésie de lire me vint, je crois, vers les 15 ans. Je me revois fort bien, assis dans un autobus, faisant ma première incursion littéraire avec un livre de nouvelles d'un auteur strictement inconnu, dont je n'ai jamais su le nom. C'était un livre à bon marché qu'on avait dû me prêter, ou que j'avais dû trouver chez le quincaillier de mon quartier qui, si inhabituel que cela paraisse, installait sur le trottoir devant sa vitrine, à côté des cuvettes émaillées, des brocs, des beurriers en terre rouge et des pots à confiture, des casiers de livres d'occasion qui passaient de main en main, d'un bout à l'autre de l'année, par tous les habitants du quartier, avant de revenir à la quincaillerie, un peu plus défraîchie, si possible, tachée de vin, de graisse, de café, de traces de doigts, les pages arrachées, décousues, et pour la plupart agrémentées en marge de dessins obscènes. Il y avait surtout des romans policiers et un grand nombre d'ouvrages illustrés sur les positions recommandées pour favoriser et perfectionner l'art du coït. On y trouvait par hasard quelques bons et authentiques romans ou essais dont il eût été curieux de suivre les pérégrinations qui les avaient conduits jusque-là. Pendant un an ou deux, j'ai bien dû m'arrêter presque chaque matin devant ces casiers et y choisir des livres. Coïncidence singulière, qui ne vaut sans doute pas qu'en épilogue, mais littérature et solitude sont les deux mots qui m'ont le plus intrigué lorsque je les ai entendus pour la première fois. Il y eut une époque où, dans les livres, le sens d'une bonne partie des mots m'échappait. Grâce au seul moyen de la lecture, je me suis lentement familiarisé avec un vocabulaire élargi que je n'avais jamais employé ni entendu employer autour de moi. Cette façon ardue d'appréhender la langue m'a laissé un immense amour des mots, amour presque physique de l'image, riche, pleine, charnelle. Le mot est avant tout un cri. C'est par un cri que nous nous manifestons au monde. Expression, c'est-à-dire besoin incontrôlable de faire entendre sa voix. Les mots sont faits pour scintiller de tout leur éclat. Il n'y a pas de limite concevable à leur agencement, parce qu'il n'y a pas de limite à la couleur, à la lumière. Il n'y a pas de mesure à la mesure des mots. Il ne viendrait à l'idée de personne de mettre un frein à la clarté nue de midi en été. Les mots, silex et diamant. Votre rôle est de fouiller là-dedans à pleine main, au petit bonheur, pourvu que ça rende le son qui est en vous au moment où vous écrivez. Vous rencontrez toujours un de ces singes maniaques pour vous expliquer gravement que ce que vous prenez ordinairement pour des lustres de Venise ne sont que de vulgaires chandelles usagées. Devant ces démonstrations savantes, empreintes de mesures, pétez-lui au nez d'un air jovial et bon enfant, qu'il comprenne que la leçon a porté. En lisant, je m'enfouissais sous le texte, comme une taupe. J'ai aimé les écrivains, tous les écrivains, d'un amour de béatitude, respect, admiration, envie, imagination. Les superpositions aussi. Tout cela composait cette espèce de tendresse bizarre que je leur accordais spontanément. J'essayais de rassembler le plus d'indices possibles sur la vie de chacun. Merveilleuse, attendrissante époque pour moi, sur ce plan où la foi absolue transposait tout et me tenait lieu d'intelligence et de sens critique. Je m'en souviens comme d'un âge d'éther, où il faisait bon s'endormir en plein air sous les étoiles et se laisser conduire par la main vers cet ensorcellement imaginaire que je recréais à volonté. Je passais le plus clair de mon temps dans l'intimité des écrivains, sans en connaître un seul. Fanatique et amoureux, idolâtre. Subissant comme les autres toute la journée les engueulades des chefs d'atelier ou du chef du personnel, supportant l'atmosphère du travail en usine auquel je n'ai jamais pu m'acclimater, meurtri dans mon amour-propre, ne pouvant répliquer sous peine d'être mal noté, tenu à l'œil et chargé des boulots les plus emmerdants de la boîte, il me suffisait pourtant de me souvenir tout à coup d'une description d'un bureau d'écrivain que j'avais lu quelque part et instantanément la colère fondait. Je me mettais à battre des ailes au-dessus du parc zoologique, une caisse de boulons neufs sur les épaules ou la pompe de graissage dans la main droite. Par je ne sais quel processus de projection, je me sentais métamorphosé, n'ayant rien de commun avec cette misère, toute cette veulerie entretenue, morbide. Que j'y fusse provisoirement mêlé n'était plus alors, selon moi, qu'un accident fortuit. Je me coulais dans la peau de mon second personnage, que je ne perdais jamais de vue. l'écrivain que j'aurais voulu être. À noter que je ne me suis jamais autant pris pour un écrivain qu'à l'époque bien heureuse où je n'avais rien écrit. Pas de la même trempe que ce tas de larbins foireux. Telle était ma conclusion au sortir d'un accrochage sérieux avec l'un des chefs. Et surenchérissant dans mon langage, j'ajoutais mentalement « Bande de sales pouilleux que vous êtes tous, vous ne vous doutez pas de quoi je suis capable. Attendez seulement que l'occasion me soit donnée de prouver ce que je vaux en réalité. Et ce jour-là, chef ou pas, je vous ferai avaler mon foutre si ça me chante. Il y a belle lurette que j'ai bifurquée sur la voie de garage, presque sans m'en apercevoir moi-même. Mais je ne l'ai encore dit à personne. C'est pourquoi j'ai l'air de vous ressembler. Sur ce, bon voyage. » Et ne m'en veuillez pas de vous quitter si tôt, mais j'ai un rendez-vous de la plus haute importance à la 7e borne astrale avec un nommé Schopenhauer, le misogyne. Un nouveau pote à moi qui aurait tendance à se payer la gueule du monde avec ce grain d'humour impénétrable que j'apprécie tant. Bonsoir. Si je parle si longuement des livres, c'est qu'ils favorisèrent en moi une sorte de système d'autodéfense à l'égard de ma condition. Manœuvre d'usine, l'avenir ne me promettait rien qui vaille et j'avais peur. Une peur alarmante. Je pourrais d'un jour à l'autre me retrouver dans la même position ou plus bas encore sans subir à nouveau ce sentiment d'infériorité qui me hantait. La réalisation, la réussite, la fonction sociale et même l'argent n'ont plus de sens pour moi aujourd'hui. Ou disons qu'ils en ont un tout différent. Je danse sur un autre pied. La lecture contribuait à tempérer au fond de moi cette anxiété dont j'ai longtemps souffert de n'être qu'un raté. J'avais beau miser indéfiniment sur le lendemain ou l'année suivante, les jours se succédaient sans changement notable. Usine, dégoût, rancœur contre tout le monde et contre le monde. Envie de me payer moi aussi des costumes, des vacances, un appartement, une soirée au restaurant ou au théâtre. À plusieurs reprises dans ma vie, je me suis demandé si, oui ou non, j'allais finir dans la peau d'un mendigo ou d'un petit employé subalterne. Ce genre de confrontation avec moi-même est affreuse. C'est l'échéance. Lorsqu'on arrive ainsi au point mort de l'échec, on est fatalement seul, et qui plus est sans argent. Je n'ai trouvé de soutien à ce moment-là que dans les livres de quelques rares auteurs qui avaient songé à ne pas broder sur le thème, à raconter simplement leurs propres déboires, leurs propres faillites, leurs expériences navrantes et solitaires à la portée de tout homme placé dans le même cas. Les livres avaient sur moi un pouvoir hypnotique. Longtemps, mes rêves de la nuit ont été encombrés de librairies aux proportions fabuleuses où j'étais accueilli en ami bienvenu, où l'on mettait à ma disposition des bibliothèques cachées contenant des éditions introuvables. Extrait de « Erreur d'aiguillage » de Camille Laurence. L'homme au chapeau pivota sur lui-même et de ce mouvement de l'index qui lui avait valu le surnom de « Finger » releva légèrement le bord de son topé, montrant à la pauvre lumière d'un réverbère le plus beau visage qui soit au monde. Puis, la mâchoire dure, il examina sans un geste les contours obscurs du bâtiment. Le taxi l'avait bel et bien trompé. Ce n'était pas la gare routière de San Francisco. C'était l'une des premières pages du livre que Claire Després n'avait pas encore ouvert. Elle s'était levée à l'annonce du train, s'était placée juste à l'endroit où elle savait pouvoir monter dans un wagon de seconde et lisait distraitement la quatrième de couverture plastifiée qui recensait les principaux éloges des critiques. Un suspense à vous couper le souffle. Une fois embarqué, vous ne quitterez plus les rails de cette histoire noire. Index, au bout de l'enquête, un scandale à ne pas mettre entre toutes les mains. Claire s'est mordue la joue gauche, désappointée. Elle n'aimait pas les romans policiers. Quand elle en lisait un, il lui semblait souvent que c'était la suite d'un premier volume, autrement plus intéressant, mais hélas, introuvable en librairie. Elle n'entrait guère, fût-ce le temps d'un voyage, dans cet univers où les héros sont fatigués comme s'ils avaient été brisés par quelque chose qui n'est jamais raconté. Personne ne paraît savoir ce qu'ils ont fait avant le début de l'enquête. Si quelques douleurs les a laissés pour toujours, à même d'être quittés sans broncher par une femme, le lecteur ne la mesure en eux qu'à un pli de la bouche, parce que cette douleur a été enfermée et scellée de telle sorte dans leur cœur qu'elle a échappé même au chroniqueur, comme le poing d'un mort crispé sur l'explication du crime, mais qu'on n'arrive plus à desserrer. Or, Claire, quoique obsédée par la discrétion dans la vraie vie, ou peut-être justement à cause de cela, estimait que la fiction devait tout dire. C'était un peu facile de s'en tirer avec deux ou trois jeux de physionomie. Est-ce que tout un passé tenait dans un claquement de doigts? Est-ce qu'on s'affranchissait d'une histoire en commandant un whisky? Cela n'avait pas de sens. Claire était architecte et avait dans son métier le souci du détail. Pour elle, un livre devait être un plan précis que l'on déplie. De même qu'elle inscrivait soigneusement l'échelle de toutes les mesures sur ses croquis, de même un écrivain devait donner la profondeur des âmes. Sur la surface du plan s'élaboraient les trois axes de l'espace, hauteur, longueur, largeur. Dans les pages du roman, passé, présent, avenir, les trois dimensions du temps. Claire a évalué rapidement la tranche du livre à travers l'enveloppe transparente. 200 pages tout au plus, serrées les unes contre les autres. Le polar avait toujours été un genre bref, tracé moins au crayon qu'à la gomme. À cet égard, Index était un excellent titre, la réponse préalable d'un auteur ironique à toute interrogation. Non, vous ne saurez rien, ou presque rien. Gardons un doigt devant les lèvres. Chut! Cet escamotage énervait Claire des prés. Et elle jugeait aussi sévèrement les romans policiers qu'un projet de logement où manquerait la hauteur sous plafond. Certes, on y apprenait comment telle enquête minutieusement menée avait réussi, mais on ignorait toujours pourquoi la vie avait raté. Si l'on pouvait d'ailleurs appeler la vie, se disait-elle en glissant dans son cartable l'inutile achat dont l'auteur du moins portait un nom à consonance française, si l'on pouvait appeler la vie cette parodie d'existence où se complaisait le polar américain, d'où Claire avait personnellement toujours émergé avec la conviction philosophique que la vie n'était qu'une suite de douches et de bourbons secs et que le destin d'un privé consiste essentiellement et alternativement à être propre comme un sou neuf et sou comme un cochon. Elle avait en outre une préférence ancienne pour les aventures chevaleresques dans lesquelles le héros, non content de se tirer des épreuves imposées par sa dame, de porter ses couleurs au tournoi, de pourfendre l'ennemi, d'abattre des châteaux et des têtes, de sillonner le monde, de quêter l'impossible Graal, c'est aussi danser le branle au bal du roi dans des souliers à la poulaine. Elle adhérait dans ses récits à des mots qui lui semblaient usés partout ailleurs et qui trouvaient là un pouvoir unique d'excitation sensuelle. Épaule, homme, beauté, visage. Ce qui dans un roman policier n'aurait témoigné que d'une grande pauvreté de vocabulaire devenait l'occasion de rêver à la force des hommes et à l'innocence des femmes. C'était comme ces statues antiques dont on contemple avec émotion les fragments, parce qu'à regarder ici un torse, là un pied, un profil, un avant-bras, on s'imagine que personne n'a su depuis avec autant de perfection ce qu'est un corps. Claire attribuait au talent des artistes la pureté des formes et des mots, alors que c'était elle qui projetait sur eux sa nostalgie des commencements, son regret d'une époque antérieure à l'indifférence et à l'usage. Elle aimait les choses vierges, la saveur des mots à leur début, sans comprendre qu'il ne tenait pas au génie de Chrétien de Troyes qu'Arthur eût été le nom d'un beau roi plein d'amour quand il n'était plus huit siècles après, que celui d'un cocu ou de l'écorché des carabins. Bref, Claire Després avait des chances réduites d'apprécier un Dex, tandis qu'elle avait, quelques semaines auparavant, sur le même trajet, dévoré l'anthologie de textes médiévaux, toutes dépenaillées, qu'un étudiant avait oubliées entre deux sièges en descendant à Rouen. Il y avait encore une autre raison pour laquelle Claire supportait mal la lecture des romans policiers. Mais cette raison n'était pas, pour l'heure, disponible dans sa conscience. Nous avons entendu des extraits de « Les mots » de Jean-Paul Sartre, « Septentrion » de Louis Calaferte, « Aiguillage » de Camille Laurence.
C'était Écouter lire, une émission de Radio Alto.